Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat ? Pendant presque 2 ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universel. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
Ouais, emmener les gens par la main et leur dire tiens, tu te rappelles de ça ? Ça défonce. Et ça, tu connais pas encore, mais ça défonce. Ouais, de faire découvrir de la musique aux gens, de faire ressortir des sentiments. C'est ma manière de m'exprimer. Il y a des gens qui font des peintures pour faire ressentir des émotions aux gens, qui sculptent des meubles, je sais pas. Moi, je fais des DJ sets.
Si le dance floor coule ou brûle, il sera le dernier debout grâce à sa combinaison thermique. Tequila Tex est équipé pour faire face à toutes les situations. Pour aller en club comme pour gravir l'Everest. Polaire fuchsia, basket ACG, pantalon de trail kaki, transformable évidemment. Sa passion pour la club musique n'a d'égal que son amour du vêtement technique outdoor. Mais avant d'écumer les DJ booths tel un explorateur des sons modernes, Tequila Tex s'est fait un nom, le mic à la main, comme rappeur au sein du groupe TTC. Il n'est pas encore las des transitions incongrues et des blends improbables, mais déjà, il chante dans le club. Et c'est bien là qu'il va passer le reste de sa vie. DJ geek et producteur de musique nerd, Tequila Tex semble tout droit sorti d'un manga 100% parigo. Born and raised dans la capitale, défenseur du club de quartier intimiste, cofondateur des labels Institube et San Pellegrino, il revendique une certaine idée du club à la française. Une teuf savante et référencée, jusqu'à l'incarner en tant que curateur de Boiler Room France et comme DJ résident sur la prestigieuse radio britannique BBC One. Alors enfilez votre rescue jacket en Gore-Tex, on part à l'ascension du sens de la fête de Tequila Tex. Tequila Tex, bonjour.
Salut Christophe, comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Eh ben moi ça va.
La dernière fois que t'as fait la fête, c'était quand ?
C'était vendredi. C'était un peu une fête en deux temps. Premier temps dans le bar de l'hôtel Grand Amour, donc qui s'intitule le Book Bar. Avec des feelings un peu mitigés, des feelings d'attraction-répulsion. Ça me ramène à une époque du Baron et du Paris-Paris et de ces clubs où on allait en semaine et on était sûr un peu de retrouver des amis. Mais maintenant je bois plus, maintenant j'ai grandi, c'est plus pareil. La fonction sociale de ce club-là, elle a un attrait... À la fois envie d'y retourner, mais à la fois un petit peu saoulé par cette ambiance vieux Paris, tu vois. Ce qu'on appelait à l'époque la hype, qui à une époque peut te faire marrer, et puis au bout d'un moment, t'en as marre. Donc ça, c'était la première partie de soirée. Puis la deuxième partie, on est allé à l'international, voir Paradox Club.
Paradox Club, label parisien de musique électronique qui cherche à inventer le son du club de demain.
Donc De Grandi, Sounaret, Le Dom, Birol et Tovan Kao au platine. Et c'était vachement bien. En plus, j'ai traîné des amis à moi qui sont pas spécialement dans la club musique en leur disant « Je vous préviens, ça va être un peu un truc de nerd, vous risquez de trouver ça compliqué, etc. » Et au final, pas du tout, ils ont adoré. Et en fait, c'était vachement généreux la musique qu'ils ont jouée. Et bon, il y a toujours un problème de sound system. Mais ça, c'est le cas partout. C'est le cas à l'international, c'était énormément le cas au Book Club.
C'est vrai que tu le dis tout le temps, en France, on a des clubs avec des sound systems pétés.
Ouais, ouais, ouais. Et quand on dit sound system pété, c'est pas une expression, c'est qu'il est vraiment cassé. Faut le changer, on ne change pas.
Mais parce que toi, ton rapport à la fête, il a toujours été drivé par avant tout un amour de la musique et du son.
Ah, j'en sais rien. En même temps, tu sais, il y a deux types de fêtes et des fois, c'est deux types qui convergent. Et des fois, on sort pas pour la même chose, en fait.
Ouais. C'est quoi les deux types de fêtes?
Ben, il y a le côté, on se retrouve entre copains, comme on va au bar du coin. Sauf que moi, je picole plus. Donc, de plus en plus, il faut quand même que la musique suive pour que je passe un bon moment. Tu vois? Et de l'autre côté, c'est, on va voir tel DJ parce qu'on sait qui on va voir et on sait qu'on va écouter de la musique, écouter tel type de musique ou justement se faire surprendre. Tu vois, en ne sachant pas ce qu'on va entendre. Et là, de plus en plus, en grandissant, ce côté plus sociabilité, tu vois, ce côté plus on se voit entre copains, ben maintenant, ça se passe plutôt dans les restaurants. Et j'ai l'impression que, dans ma vie en tout cas, le restaurant a pris la place du club de quartier.
Ça a toujours été important, la fête, dans ta vie ?
Ça a toujours été fascinant, en tout cas. Un truc un peu secret... dans lequel j'avais envie de tremper le pied.
Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce qui te fascinait?
Je sais pas, quand j'étais petit, que je regardais la télé, moi, c'était... Mon rapport à la musique, il se faisait vachement via la télévision, en fait. Et alors, dès que j'ai eu MTV, là, c'était fini. Je regardais des clips toute la journée, et j'étais fasciné par... tu vois, le clip des Daft, où il y a l'alarme incendie, là. Le clip de Armand Van Helden, You Don't Know Me, où ils essayent de rentrer en club, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et finalement, ils rentrent dans le club et c'est magique, tu vois. Les films avec des scènes de club, genre... tout le monde dit qu'elle est pétée, la scène de club dans Basic Instinct, mais moi, elle me faisait rêver un peu, tu vois. Ces trucs-là, ça me faisait un petit peu rêver. Le truc interdit, le truc de, tu vois, les émissions d'Ardisson au Palace. J'avais envie de voir ce qui s'y passe, quoi. C'était un petit peu un truc pour les adultes, quoi. Il y a un clip de Madonna aussi, Deeper and Deeper. Incroyable. Et j'avais envie de faire la teuf avec ces gens, quoi. J'avais envie d'être accepté par ces gens et de faire la teuf avec eux, tu vois.
Donc c'est énormément par ce qu'on peut percevoir de la teuf ou de la club culture dans la pop culture, en fait.
Absolument, c'était exactement ça. Des images de club via la pop culture. Et c'était ça qui me faisait rêver.
Tes premiers souvenirs de fête enfant, c'était quoi? Est-ce qu'on faisait la fête chez toi? Tes parents, t'as grandi dans le 15e arrondissement de Paris.
Ouais.
C'était dans quel milieu? Est-ce qu'on faisait la fête? Est-ce que c'était un peu festif?
Non, 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 non. Mes parents, tout ça, ça faisait pas la fête trop. Mes cousines, un peu du côté de mon père, oui. Non, du côté de ma mère, là, à Paris où j'habitais, non. J'avais pas de grande sœur, pas de grand frère, pas de cousin beaucoup plus âgé que moi qui aurait pu faire la fête bien avant moi. Par contre, il y avait les mariages. Un bon souvenir de fête, c'est le mariage de ma mère et de mon beau-père. Les démons de minuit avec Voyage Voyage.
Il y a une vidéo de toi.
Vidéo géniale de moi qui donne tout. J'adorais les mariages parce qu'on pouvait danser, qu'on pouvait faire la fête, quoi.
Oui, donc déjà, t'avais hyper hâte d'aller sur le dance floor.
Non, mais moi, je voulais faire des booms. Hein. Moi, j'avais envie de faire des booms quand j'étais gamin. Je voulais faire des karaokés, des booms, des trucs. J'avais prévu de faire d'inviter des gens pour mon anniversaire et de faire une espèce de boom. De faire chanter à tous mes amis un morceau différent. Tu vois, j'avais prévu que ma copine Laura elle chantait The Locomotion de Kylie Minogue. Moi, j'avais prévu de chanter la Bamba, tu vois. Ça s'est jamais fait, mais...
Pourquoi ça s'est jamais fait?
Et puis, j'étais pas invité au boom. Moi, j'étais pas populaire à cette époque-là. J'étais un peu un
clown de la classe, un peu qui craint un peu, quoi. Un peu genre, il nous fait marrer, mais on n'est pas pote avec lui en public. Mmh. Tu vois. C'est un peu plus tard que je suis devenu un cool kid entre gros guillemets, mais j'étais pas invité au Boom.
Ouais.
Ça me rendait triste d'ailleurs. Ça me rendait
c'est dur.
Triste.
Mais là, on revient à ce que tu disais un peu sur le caractère social et un peu mondain de la fête. Déjà, c'était le cas en fait
c'est
avec
le cas,
les
et peut-être que je suis beaucoup sorti par la suite pour prendre ma revanche sur les booms auxquels j'étais pas invité, peut-être.
Ah, c'est intéressant ça, la lecture psychanalytique de la trajectoire de DJ.
Absolument, absolument. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, l'autre jour au Book Club, à l'entrée, on m'a quand même dit « Bonjour monsieur, vous venez pourquoi ?» Et j'étais genre « Je suis attendu, j'ai pas su quoi dire, je me suis senti mal. » Je me souviens aussi d'un bar, et là on est en pleine période TTC, tu vois. Et il y avait un espèce de bar un peu beauf, un pub à Odéon. Et je sais pas comment on se retrouve après une bouffe quelque part dans le quartier avec des amis. On se retrouve et on veut boire un dernier verre quelque part et il y a que ce truc-là d'ouvert. Et on se dit ok, bon bah on va aller boire un coup au pub, dans cette espèce de pub à Odéon. Et j'arrive avec mes copines devant le pub. Et j'avais un pantalon en velours Ralph Lauren avec des petites scènes de chasse brodées dans le pantalon. Donc c'est cool, c'est un truc qui coûte une fortune en plus, tu vois.
Déjà.
Pour moi, j'étais méga bien sapé. Et le mec, il m'a dit « Ah non, vous pouvez pas sortir en pyjama, monsieur. » Il a pas voulu me faire rentrer, il m'a pas reconnu, il savait pas qui j'étais. Le mec, il a pris ça pour un pyjama, quoi. Et il m'a dit, il m'a fait comprendre que j'étais pas le bienvenu dans son pub trop méga classe. Et là, j'ai ressenti une sorte de... un petit truc un peu bizarre dans mon cœur, un petit truc de... Ça m'a ramené au Boom auquel j'étais pas invité quand j'étais petit.
Une blessure rouverte.
Ouais, ça a réouvert une petite blessure, mais je me suis dit, ah, c'est pas grave.
Et du coup, les premières fêtes que tu fais après ces Boom avortés...
Tu commences à avoir 15, 16... 16 ans, tu commences à pouvoir sortir dans les clubs de province l'été ou quand t'es en vacances. Tu vois. Mon papa, il est auvergnat, donc j'allais à Mauriac, j'allais au Coups. La boîte de Mauriac qui a dû changer de nom depuis. Il y avait les rugbyman d'un côté, les footballeurs de l'autre, mes cousines et mes tantes de l'autre côté. Et moi, j'étais au milieu à danser sur de l'Eurodance, tu vois, genre « Ah, trop bien !»
C'est des bons souvenirs.
Ouais, c'était des bons souvenirs, ouais, bien sûr. Il y avait le Coups, il y avait la Boom à Soursac. Qu'est-ce que c'est, la Boom à Soursac ? Une espèce de bal amélioré, une fois par semaine, dans la commune de Soursac, en Corrèze. Pile à la frontière entre la Corrèze et le Cantal. Moi, j'étais côté Cantal, mais on allait en Corrèze pour aller à la Boom à Soursac tous les week-ends. Et le morceau qui cartonnait, c'était Informer de Snow. Je ne vais pas le faire. Je ne vais vraiment pas le faire au micro de ce podcast. Mais à l'époque, j'étais capable de chanter les paroles de Informer.
Tu peux pas nous balancer ça.
je suis obligé parce que physiquement, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Informer. Et après, il roule les mots avec sa langue, etc., extrêmement rapidement. I like it boom boom down. Et c'était mon truc, quoi. J'avais trouvé ma personnalité. J'étais le gars qui chante Informer. Informer. Et c'était super parce que enfin j'avais un truc dans ma vie qui me permettait d'avoir des relations avec des gens pendant un ou deux étés. Avant ça, le premier avant-goût du truc, c'est les autotamponneuses, quoi.
Et la fête foraine.
Ouais, c'est la fête foraine, quoi. C'est le truc le plus proche du club, le bal du village, avec la fête foraine.
Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, de cette première découverte, de ces premières boîtes ?
Beaucoup d'alcool. Je sais pas, ouais, ça picolait, hein. Ça picolait sévère, hein.
Et toi, ça a confirmé ton attrait pour le monde de la nuit ? Tu t'es dit, oula, c'est moins glamour qu'à la télé quand même.
Non, ça me faisait trop marrer. Non, bien sûr, non, je trouve ça cool. Et puis après, ma vie sur Paris était bien plus sage parce que j'étais un petit peu couvé par ma maman. Donc je sortais pas trop, j'avais pas trop le droit de sortir, j'étais obligé d'inventer des stratagèmes pour ça. Mais très vite, il a commencé à y avoir le rap.
Ouais.
Et là, on rappe, on va dans des concerts de rap, on va dans des open mic, on va dans des soirées hip-hop. Et là, c'est une autre histoire.
Ouais. Là, on est à la fin des années 90.
Milieu des années 90, on va dire. Milieu, fin.
Et là, tu fréquentes les soirées rap, en fait. C'est...
Ouais, et puis TTC est né en 98. Et là, c'est sûr que là, on fait ce qu'on veut, quoi. Et on va dans les clubs et on va traîner dans les... Ouais, dans les micros ouverts et des trucs comme ça. Et on se retrouve assez souvent au bateau phare. Mmh. Il se trouve que le rap qu'on écoute à l'époque, quand les mecs viennent en concert, c'est en général au bateau phare.
Ça ressemblait à quoi? On y entendait quoi? Raconte-nous un peu.
C'était tout simplement des concerts de Company Flow, de Antipop Consortium, de Dose One, Shapeshifters, des trucs comme ça. Donc quand on entend parler sur des forums internet, puis tu vas voir le truc et voilà.
Et dans les soirées hip-hop, c'était la teuf?
C'était cool, mais c'était un peu tout le temps pareil, quoi. Moi je suivais un peu DJ Fab, qui faisait un peu des fois des trucs au Folies Pigalle. C'est un bon souvenir. Quand je me retrouvais en soirée hip-hop, au Gibus aussi, un petit... mais c'était un petit peu chaque semaine la même chose, en fait. Le principe des soirées hip-hop, c'est pas la découverte, en fait. C'est surtout, on va te jouer tous les tubes, quoi, les uns après les autres. Cette frustration d'être Bill Murray dans Un jour sans fin, à chaque fois que j'allais en soirée hip-hop, tu vois. Genre l'impression de revivre tout le temps la même chose. Même, tu vois, quand il y avait un DJ set après ou avant un concert, c'était tout le temps les mêmes tubes, tu vois. Les classiques, allez, un petit Gangstar, un petit Shook Ones Partout de Mobb Deep, Bigger Than Hip Hop de Dead Prez, tous les Biggie, tous les Jay-Z, tous les machins, tous les trucs, California Love, Next Episode et compagnie, et vas-y, et Anti-Up de M.O.P, et tout le temps les mêmes en fait, genre, vraiment genre, insupportable en fait. Cette frustration là de tourner en rond. Quand j'ai découvert le monde de la musique électronique, j'ai découvert le fait d'être surpris par des morceaux dans un set. Le fait d'être emmené quelque part où je sais pas où on va, tu vois. Et Jean Nippon qui mixe du Psylob avec Craig David. Fields qui mixe du Noriega avec du Hélène Alien. Et genre, j'hallucine, tu vois, je me dis, mais c'est génial. Tu vois, genre, je me dis, c'est là que je veux être, quoi. Tu découvres tout ça d'un bloc, quoi. Et puis... Au final, Paris étant petit, tu commences à traîner avec les mecs de Clark Magazine, tu commences à traîner avec les gens... La boîte de promo qui s'occupait du label sur lequel TTC était signé, c'est Ping Pong. Le boss de Ping Pong, il avait une soirée, son nom c'était Fred, et il avait une soirée avec Guillaume Sorge, qui a par la suite repris Red Bull, Music Academy en France. Et cette soirée s'appelait Solid Water. Et c'était parfois au bateau phare, parfois à main d'œuvre. Très bon souvenir.
Main d'œuvre à Saint-Ouen.
Main d'œuvre à Saint-Ouen, exactement. Et là, c'était le truc qui réunissait les gens qui ont envie de faire la teuf et les amateurs de musique électronique compliquée. Des amateurs d'IDM.
IDM, Intelligent Dance Music. C'est un ensemble de musique électronique underground et expérimentale, incarné par exemple par le label anglais Warp Records.
Tu vois ce que je veux dire, c'était la soirée où tu faisais la teuf sur du warp, quoi, en gros. C'était, ouais, dans les premières soirées dans lesquelles on sortait, il y avait aussi la péniche Concorde Atlantique. Je n'allais pas au Queen pour les soirées respect. Je me sentais pas assez cool pour ça. J'étais trop jeune pour ça. Je me serais probablement fait refouler avec mon pyjama à l'entrée. Et donc je me sentais pas. Ouais, je me sentais pas le courage d'aller aux soirées respect.
Donc les soirées respect qui étaient les premières soirées de la French Touch, organisées notamment par David Blue qu'on a reçu dans le sens de la fête.
Big up à lui. Et puis très vite les soirées au Queen se sont arrêtées et ont réussi à renaître à la péniche Concorde Atlantique. Et c'est là. On y était tout le temps. Parce qu'on commençait à traîner avec des feeds, avec des gens comme ça qui flirtaient avec la musique électronique, flirtaient avec le monde de la house. Et on se retrouvait dans ces ambiances-là.
Ça, c'était première soirée de musique électronique, vraiment?
Ouais. Je pense entre Solid Water et les soirées respect sur la péniche Concorde, c'est un petit peu ces soirées, c'est un petit peu les premières, ouais, c'est sûr. On découvre plein de trucs via ça. On découvre aussi, bizarrement, l'électroclash, un peu à la même époque.
Electroclash, c'est un genre musical qui mélange techno et culture rock, incarné par des artistes comme Peaches, Miss Kitty and the Hacker ou encore Vitalik. C'était la grande période de l'électroclash, notamment, ouais. Notamment qui a été incarnée par le Pulp.
Ouais, ouais.
Club le Pulp.
En fait, j'ai oublié de parler du Pulp, mais moi, je vais beaucoup au Pulp.
Ah ouais ?
Ouais, beaucoup au Pulp les jeudis. Jeudi, c'est mixte.
Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas ?
Ben, on s'éclate, quoi, au Pulp. Hein. Et puis, c'est mystérieux, et puis, c'est trop cool, et puis, c'est... Au début, j'y vais et je suis tout timide et j'observe les gens et je les trouve 10 fois trop cool pour moi. Et puis tu vas une deuxième fois, tu te sens un peu mieux. Et puis au bout de la troisième fois, c'est la teuf quoi. Dis bonjour à Fanny.
Fanny Corral qui était la programmatrice du Pulp et qu'on a reçue dans cette émission.
Exactement. À cliquer sur le petit bouton pour aller la voir, pour aller écouter son émission. Non mais en vrai, la première fois que j'ai mis les pieds au Pulp, c'était parce que j'étais pote avec Gonzalez. Donc Chilly Gonzalez, qu'aujourd'hui les gens connaissent comme étant un pianiste incroyable et un personnage important de la culture pop underground. Et c'est lui et Peaches qui jouent au Pulp et qui me disent « Viens au Pulp nous voir ». Et moi j'hallucine, tu vois. Du coup, je sais pas, je commence à aller au Pulp et je m'éclate et je kiffais trop le Pulp.
Pour revenir à TTC, Le groupe a toujours eu une place totalement à part hein, dans le paysage du rap français. Vous étiez très influencé par des musiques électroniques et par de la musique club en fait. Est-ce que c'était du rap de club ?
C'était pas du rap de club au premier album. Ça a commencé à l'être au deuxième, mais ça l'était beaucoup plus au troisième. Jusqu'au point de vouloir faire de la musique de club qui n'était plus du rap.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, TTC, le club, c'était important. Et on imposait aux gens de faire des after-parties. On imposait aux endroits dans lesquels on faisait des concerts d'avoir une heure de DJ set avant et probablement une heure de DJ set après. On voulait que ça se termine avec tout le monde sur scène. On fait la fête. Et les concerts deviennent de plus en plus des teufs en fait, inspirés par ce qu'on est en train de vivre en sortant toutes les semaines à Paris quoi. On lance aussi des soirées au triptyque.
Parlons-en un peu du triptyque qui est ensuite devenu le Social Club. C'est ça, hein, c'était
exactement.
Le club 142 rue Montmartre où t'as longtemps été associé à ce lieu parisien où t'as beaucoup traîné, t'as organisé des soirées là-bas. Alors c'était quoi, le triptyque, le social club ?
On était influencé par Holertronics.
Holertronics, never scared.
Qui étaient les premières fêtes de Diplo et Low Budget à Philadelphie aux États-Unis. Et en fait, Diplo et Low Budget ont sorti ce CD mixé qui s'appelle Never Scared. C'est sorti à peu près au même moment que Too Many DJs et la vague bootleg, tu vois. Je dirais que Too Many DJs, il y avait un truc beaucoup plus européen où ils te mixaient des trucs belges avec des trucs un peu rock avec avec de l'électroclash en gros, plus ou moins, tu vois, avec du Vitalik. D'autre côté, t'avais Diplo qui mixait du dancehall, de l'Italo, du Björk, de la Bimore, des trucs de house et des trucs beaucoup plus pointus, tu vois, au milieu de ça. Et on kiffait trop. C'était le mélange des gens.
Ouais, cette culture de l'hybridité en fait.
Exactement, on kiffait trop et pour nous c'était... Je me rappelle m'endormir dans le van de TTC en ayant pris des somnifères pour réussir à réguler mon sommeil lors d'une tournée à l'étranger où ça partait dans... On n'avait jamais le temps de dormir en fait, on était tout le temps en train de faire la teuf ou d'être en transit entre deux villes. Et je me rappelle écouter Never Scared dans le van, à moitié conscient, à moitié dans les vapes, et de rêver que Diplo joue à la prom night de mon lycée et il joue Debbie Deb, When I Hear Music, je chiale. 6 mois plus tard, on le book au triptyque et ce truc prend vie sous mes yeux, tu vois.
Holertronics, never scared.
C'est une soirée qui s'appelait Poulet et bière. Et ensuite, le triptyque devient le social club un petit peu plus tard.
Ouais.
Et là, on passe vraiment dans l'ère turbine.
Alors c'est quoi l'ère turbine ? C'est quoi la génération turbine qui était, on qualifiait comme ça le public du social club ?
C'est des gens un peu habillés fluo, machin. Bon là c'est les blogs à fond, tu vois. Les carrières se font et se défont sur MySpace. Mais c'est une deuxième génération, je dirais.
et moi je suis over it un petit peu. Je suis déjà un peu saoulé par ça.
Un peu saoulé sur ce
ben, surtout ça, c'est une uniformisation en fait. En fait, Justice arrive et on vraiment, faut rendre à César ce qui appartient à César, inventer un peu un son avec des Sébastian et des Jackson et des Computer Band et des Oiseaux et tout ça. Bon, ils ont inventé un son dans la continuité de ce que Daft Punk ont fait avec leur album Robot Rock.
Donc c'est une espèce de French Touch deuxième génération.
Exactement. La French Touch 2.0 débarque. Et il y a une uniformisation du son, quoi. Tout le monde se sent obligé un petit peu de faire ce son-là. Si tu veux tourner à l'étranger, si tu veux être important sur le paysage français, dans la musique électronique, si tu veux être pote avec les gens cool, si tu veux être hype, entre guillemets, je déteste ce mot, si tu veux être dans le coup, il faut un petit peu avoir ce son-là. Là où les gens qui sont à l'origine de le son le font bien, bah plus t'as de générations qui copient ce truc, plus ça se dégrade, quoi. Et ça devient une parodie de parodie de parodie. Et quand on en arrive au Bloody Beetroot, c'est un cauchemar, tu vois. Et surtout, il y a cette attitude rock. Il y a cette attitude de... on fait la fête, on est dans des clubs, mais on n'est pas des clubbers, on n'est pas des ravers, on est des rockers, ok. On n'est pas dans la techno, nous, on est dans le rock, tu vois. Ce truc-là me débecte un petit peu. Même si j'ai aimé les Vitalik et les Miskitin and the Hacker et tout le truc un petit peu électro-clash là-dedans, moi j'y voyais pas un truc rock, en fait, bêtement. J'y voyais un truc synth-pop, j'y voyais un truc presque italo, et j'y voyais un truc techno, mais j'y voyais pas un truc rock. Parce que moi j'ai pas grandi avec le rock. Ce côté, on va en club, on fist pump et on bouge la tête et on se jette dans la foule comme à un concert de rock, ça m'impressionne pas trop, quoi. Au contraire, ça me dégoûte un peu, en fait.
Ouais, et le côté, ouais, tourné vers le DJ, exactement. Les bras en l'air.
Le DJ sur une scène, avec un DJ booth qui est de plus en plus compliqué, qui remplace de plus en plus les grosses guitares et les grosses batteries d'un concert de heavy metal. La heavy metalisation de la musique électronique est un truc... dont je ne bois pas le Kool-Aid, si je puis me permettre.
Donc toi, c'est l'inverse du club, de la fête de...
Ouais, c'est l'inverse du truc de... Moi, j'ai un super souvenir de Tough Trax à la Scala, où ça baisait dans tous les coins, honnêtement. Et c'était Too Many DJs. Pourtant, c'était genre... la musique n'était pas forcément aussi éloignée de ça que celle de la génération Turbine, mais c'était les tout débuts de Too Many DJs. Et ils font une grosse teuf à la Scala qui est maintenant le VIP room, tu vois. Ouais. Et donc une énorme teuf à la Scala et ça baisse dans tous les coins. Et tu vois des gens, des Parisiens qui viennent d'autres tribus que la tienne et qui s'habitent dans la même ville que toi, mais tu les as jamais rencontrés et tu les croises. Et il y avait à la fois cette espèce de truc de communion où tout le monde était devant le DJ et où c'était la grosse communion, la grosse teuf, la grosse rave. Et en même temps, le côté dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment la convergence avec le côté club intime aussi, parce que la Scala est faite de telle manière que tu peux t'y perdre et tu peux te foutre dans des recoins, dans des trucs. Et c'était trop bien, trop bien. J'ai un trop, trop bon souvenir de ce truc-là. Cette manière de se mouvoir dans un club et cette manière d'avoir une expérience de clubbing avec deux salles en plus, où tu passes d'un endroit à l'autre et où tu restes jamais trop au même endroit et où tu passes d'une ambiance à une autre musicale et où tu te laisses guider un petit peu par la musique, mais en même temps par les rencontres que tu fais au gré de tes pérégrinations. Et ben ça, c'est le contraire du côté heavy metal, quoi.
Et toi, ta manière d'appréhender le clubbing, tu la résumerais comment, du coup, ce côté pérégrination, rencontre
C'est une aventure, c'est les Goonies, tu vois. C'est comme une aventure, le club. Tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas si tu vas rentrer ou pas. Armand Van Helden, il sait pas s'il est avec sa grosse doudou de North Face, avec son pote, là. Ils se font refouler, puis finalement, ils trouvent des meufs, et finalement, ils arrivent à rentrer dans le club, et ils se retrouvent dans l'espèce de truc avec des aquariums, avec des gogo danseuses dedans. C'est mystérieux, c'est cool. C'est un truc un peu inattendu, c'est la surprise, le club. C'est comme une pochette surprise géante dans laquelle tu vis. Et ça, c'est cool. Parce que tu sais pas quel morceau va jouer le DJ après. Est-ce qu'il va nous mettre un truc qu'on connaît par cœur et qui va nous faire kiffer et qu'on va pouvoir chanter avec tous nos potes, ou est-ce qu'il va nous mettre notre prochain truc préféré qu'on sait pas encore ce que c'est? Ça, ce sentiment-là, c'est incroyable. Et genre, se regarder avec nos amis, genre, il a joué ça, ce truc de ouf. Des moments comme ça que je veux vivre.
Et Et après, ce club, il y a d'autres clubs qui sont construits un peu contre.
Oui, exactement.
Qui est représenté, ouais, bien par, sûr. Exemple, par exemple, concrète, le club de Brice Coudert, c'est pas mal construit contre ce qu'incarnait le social club à un moment. Alors, ça raconte quoi?
Les gens se sont repliés sur la vraie techno, le vrai esprit de la vraie techno underground, le vrai esprit de la vraie house music en vinyle. Tout ça.
Une espèce de retour du purisme.
Retour des puristes, ouais, bien sûr. Tu sais, ça avance par vague. Hein. Il y a eu une vague où on mélange tous les styles musicaux, et la vague d'après, en réaction à ça, on va se recentrer sur être un puriste. Et puis, encore après, là, on est en train de revivre le retour de on mélange tout.
Ouais, on ressent vachement aujourd'hui que les frontières entre les genres explosent.
Ouais, complètement, ouais. Mais tout ça, c'est cyclique. Et donc, voilà, dans 3, 4, 5 ans, il va y avoir un retour des puristes. Mais j'ai pas hâte. Mais mais ouais, je pense vraiment. Donc, retour des puristes, début des années 2010, on va dire. Il y a eu, moi, je me rappelle le truc significatif. Ça a été un reportage de Resident Advisor sur la teuf en France, où il n'y avait aucune des personnes que je connaissais. Mais c'était vraiment une sorte de parti pris de « Non, il y a une autre fête en France. Et le prochain truc cool, c'est eux. » Tu vois. Donc voilà, concrète, les warehouses, c'est devenu ça le plus gros truc, en fait. Et les gens, je pense, 50% pour un amour de la musique, 50% pour une expérience... lié aux substances aussi et au fait qu'on a envie de se mettre la race après une semaine de boulot oppressante, quoi. Crise économique, dureté de la vie à Paris, on a envie de tout oublier le week-end. Il y a eu le film de Paul Kalkbrenner, là, tu vois. Où il va à Berlin, là. Berlin Calling.
Berlin Calling, exactement.
Putain, goes to Berlin once. Le nombre de putains de Parisiens qui ont regardé le putain de film de Paul Kalkbrenner et qui ont dit « c'est trop bien Berlin », qui se sont pris leur premier billet EasyJet à Berlin qu'ils pouvaient trouver et qui ont pris du MDMA pour la première fois de leur vie, voire de la kétamine ou je ne sais quoi, et qui ont dit « j'ai compris le clubbing, je suis allé à Bergagne, j'ai compris le clubbing, je suis allé au Panorama Bar, ils font un truc avec les persiennes là, j'ai compris le clubbing ». Et ils reviennent à Paris, ils sont genre « c'est plus possible ». Il faut que Paris devienne Berlin. On va berliner Paris. Ils ont fait des soirées en France qui s'appelaient Berlinons Paris. Je m'en suis pas remis de la stupidité de ce truc. Je suis désolé. C'est certainement des gens hyper bien intentionnés qui ont fait ces soirées-là. Mais c'est le pire nom sur Terre. Berlinons Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. Je veux dire, Paris, c'est Paris, Berlin, c'est Berlin, et tout le monde fait la fête à sa manière, et c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais Berlin, non Paris, c'est vraiment whack, tu vois. Ce côté wannabe Berlin à Paris s'est installé et est devenu la norme. Je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier, là. Je suis en train de te dénoncer des comportements qui ont coexisté et dans lesquels je me retrouvais pas.
Mais d'autant plus que, parce que tu dis, voilà, Berlin ou Paris, c'est le truc le plus absurde, le plus débile. Toi, t'as toujours œuvré pour, au contraire, faire émerger une scène clubbing et un son club français,
ouais,
spécifiquement français. Je pense à une de tes initiatives qui était le Berit Club.
Ouais.
C'est ça, le Berit Club.
Ouais. Si tu veux qu'on parle du Berit Club, il faut un podcast de 5 épisodes. Je dirais la Berit Club Music, d'ailleurs.
La Berit Club Berit. Music. Bon, alors, en deux mots déjà, c'est quoi la Berit Club? Ça sort d'où?
Ça sort de la rue de Berit, qui est l'endroit où il y avait le studio Dailymotion, dans lequel on enregistrait des émissions de streaming de DJ filmées, donc une sorte de boiler room version Dailymotion, qui s'appelait Overdrive Infinity. Overdrive Infinity.
Tout à fait, avant toi-même de reprendre Boiler Room,
bien
Boiler
sûr.
Room France et d'incarner Boiler Room France.
Bien sûr. Ouais. Overdrive Infinity, c'était super cool, super enrichissant. Vous avez joué plein de DJ du monde entier. Et puis, il y a une scène qui a commencé à émerger autour de ça. Et des gens qui ont commencé à se retrouver là-bas. Et à un moment, moi j'avais toujours en tête cette idée de prendre des gens sous mon aile et d'essayer de créer un style musical purement local, quoi, de club musique local, en fait. Tout comme à Philadelphie, il y a un certain type de club musique. Dans le New Jersey, il y a un certain type de club musique. À Rio de Janeiro, il y a un certain type de club musique. Et c'est quoi le truc français, à part la French Touch, qui était un truc un peu déjà daté et deuxièmement, qui avait une personnalité qui n'était pas très codée, en fait. Et qui était un peu bourge, tu vois. Qui était un petit peu un truc de... Un tout petit peu un truc de Versailles. Encore une fois, je ne généralise pas, parce qu'il y avait des gens de tous horizons qui pratiquaient cette musique-là, mais bref. En fait, quand on fait des soirées, et qu'on fait venir des DJ, et qu'on a besoin de DJ étrangers pour rendre cool notre soirée, tu vois, on se dit... Putain, ce serait bien que les Anglais, ils aient besoin de DJ français cool pour rendre leur soirée cool. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me suis dit, quand est-ce qu'on revient à ce truc que moi j'avais un petit peu vécu au milieu des années 2000 où la France était un pôle important de la musique. Tu vois, moi j'avais besoin qu'il se passe un truc en France. J'avais cette envie qu'il se passe un truc en France. J'avais ce ras-le-bol que les petits producteurs français viennent me voir en me disant, tiens, écoute ça, c'est du grime à la française. Ou c'est du UK funky à la française. C'est quoi? C'est du reggae allemand? C'est quoi? C'est du cassoulet californien? Ça n'a pas de sens, en fait. UK funky à la française, ça n'a aucun sens, en fait. Et donc, moi, j'avais envie, tu vois, de reconstruire, en regardant comment avaient fait les Anglais, en regardant comment avaient fait les Américains, en regardant même en Afrique du Sud, avec le com et tout ça, chaque scène qui a un petit peu sa musique un petit peu spécifique, voir comment ils en étaient arrivés là, en s'inspirant de notre arbre généalogique à nous, de Music Club, qui va de la variété française, enfin, du boogie français, on va dire, jusqu'à la French Touch, en passant par des trucs comme DJ Gregory, qui justement, eux, ont influencé la UK Funky.
Donc il y a quand même une histoire de la musique club y a quand même française.
Si tu choisis de la trouver, si tu fais le tri, il y a quand même une histoire de la musique club française, qui ne demande qu'à évoluer au même titre que l'histoire de la musique club anglaise a évolué comme un Pokémon évolue, tu vois. Sauf que en France, si tu veux rentrer dans les détails, il y a moins eu le besoin de création de musique underground qu'il y a pu y avoir en Angleterre. Parce que là où en Angleterre, les radios pirates se sont développées autour de la musique, en France, les radios libres se sont développées autour de la parole. La France est un pays de mots. L'Angleterre est un pays de musique. Tu vois, et c'est la tradition des lettres en France qui prend tellement de place parce qu'on est tellement un pays musée, tu vois ce que je veux dire, que voilà quoi, c'est les putains d'immeubles haussmanniens et Victor Hugo quoi, et ça prend trop de place. Il n'y a pas de place pour créer, pour inventer une nouvelle musique.
Et alors, cette nouvelle musique que t'as inventée, la Berry de Club Music, ça a donné quoi?
Malgré... On a fait ce qu'on a pu, mais en gros, tu sais, les jeunes producteurs, ils aiment pas qu'on leur dise quoi faire. En fait, plus tu leur dis, il faudrait trouver des codes, et il faudrait s'y tenir, il faudrait trouver, tu vois, genre, un truc qui différencie cette musique des autres musiques, en fait... Plus ils ont envie de dire « Non, laisse-moi, je suis un artiste. Laisse-moi, je dois laisser libre cours à mon imagination pour créer une musique qui n'est que à moi, qui ne ressemble à rien d'autre. Je suis un artiste maudit, laisse-moi vivre. » Genre, je ne veux pas être dans les carcans de
la bérite.
Ouais, de la bérite. Donc très vite, c'est mort dans l'œuf un peu. Mais moi, je trouve que ça a quand même un petit peu marqué les gens. Et je trouve que ça a quand même... Même si c'est un petit peu morné, ben ça a quand même créé un petit truc. Et aujourd'hui, dans la musique de gens qui sont arrivés une ou deux générations après, comme Greg, par exemple.
Greg est un DJ et producteur originaire de l'île Maurice, résident des soirées La Créole à Paris, et qui mélange les genres en mixant des musiques électroniques comme la techno et des sons caribéens comme le dancehall ou le chata.
Je retrouve certaines valeurs et lui m'avoue être... inspiré par certaines choses de cette époque-là. Ça peut être un truc que les gens vont découvrir dans 2, 3, 4 ans, la bérite, tu vois. Et ils vont se dire, ah waouh, pendant 6 mois, 1 an, il y a une poignée de 10 producteurs qui ont fait des morceaux incroyables. Et ensuite, ça a disparu. Genre, je désespère pas qu'un jour, quelqu'un déterre la bérite. Et en fait, tout ce que je voulais, c'était juste ajouter une branche à l'arbre généalogique dont on parlait, en fait.
Et c'est quoi, en deux mots, les ingrédients, justement, pour faire un bon morceau de bérite?
25% de coupé-décalé, 25% de logobi, 25% de French touch, et le reste des 25%, un fourre-tout de club musique du monde entier.
Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de mixer devant du public ?
Leur faire ressentir ce que moi j'ai ressenti devant les DJ que j'aimais, cette espèce de surprise, cette espèce de... Ouais, emmener les gens par la main et leur dire « Tiens, tu te rappelles de ça ? Ça défonce. Et ça, tu connais pas encore, mais ça défonce. » Ouais, de faire découvrir de la musique aux gens, de faire ressortir des sentiments. C'est ma manière de m'exprimer. Il y a des gens qui font des peintures pour faire ressentir des émotions aux gens, qui sculptent des meubles, je sais pas. Moi, je fais des DJ sets.
Et t'aimes faire danser les gens et danser aussi, ou
est-ce qu'il y a... Moi, je danse pas tant que ça.
Non.
Non. Moi, je suis un peu un gros corps lourd. Tu vois, je suis in the back of the club, mais je suis pas un gros danseur. Mais quand je suis au platine, j'ai mes petits roulements d'épaule, mes petits trucs. Ouais, bien sûr, évidemment. Évidemment, mais c'est jamais trop conscient, tu vois. Je déteste les DJ qui en font trop derrière les platines, qui feignent de s'éclater beaucoup plus que la vérité, en fait. Cette espèce de truc de « je suis très conscient de moi, attention, je vais bouger comme ci, comme ça, regardez, je suis tellement charismatique ». Ces trucs-là, ça marche pas du tout sur moi.
C'est comme simuler dans le sexe un peu. Hein.
Exactement, c'est exactement comme simuler dans le sexe. Donc ouais, si tu t'éclates, éclate-toi, il n'y a pas de problème. En général, ça se voit quand les gens en font trop. Et puis, force est de constater que ouais, si t'es un petit peu concentré derrière tes platines et que tu réagis face au public, faut que t'aies quand même un œil sur le public, un œil sur ta bibliothèque de musique, quoi, enfin ta discothèque, quoi, sur tes CDJ ou sur les disques que t'as amenés, si tu mix en vinyle, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que tu peux pas te danser tant que ça, en fait. T'as quand même ce besoin d'être un ordinateur qui va analyser les trucs et réagir, et c'est pas si important que le DJ danse. Ce qui est important, c'est que le public danse. Si le DJ danse et que le public danse pas, il y a un problème. Et moi, j'ai vu Green Velvet bouger sa tête de 2 cm de manière complètement stoïque pendant 3 heures de set. Et les gens tous autour de lui qui s'éclatent comme jamais et qui sautent au plafond et qui marchent sur le plafond tellement ils sont en train de danser, tu vois. Et lui, il est là, il est stoïque, il bouge, il fait un seul mouvement en continu comme ça, pac, pac, il bouge la tête. Ça se voit pas parce que là, on est dans un podcast audio, mais...
mais tu fais très bien, on imagine.
Il bouge le truc et vraiment, il est vraiment comme ça en boucle pendant 3 heures. Tu te dis, mais il se fait chier. Et en fait, il est hypnotisant presque, tu vois. Et il est dans son monde et toutes les transitions sont bien senties. Chaque morceau est bien senti. Chaque morceau est le résultat d'une lecture du public parfaite, tu vois. Mais pour autant, il n'a pas besoin de faire des grands gestes, quoi. Pas besoin de jeter des gâteaux à la crème sur les gens. Il n'a pas besoin de se rouler, de monter sur les platines. Il est tranquille et il fait son truc, il est dans son monde. Et les gens autour pètent un câble pour lui. Et c'est ça qui est important, c'est que le DJ doit quand même se mettre au service du reste du club.
Comment tu fais, toi, pour faire péter un câble au public?
Ben, j'essaye de les surprendre. Vraiment, moi, c'est mon truc. Vraiment, j'essaye de leur faire dire « il a osé ». Soit ça, soit rentrer dans un tunnel de musique extrêmement mentale et rentrer dans un tunnel de musique un petit peu sérieuse et qui fait plutôt appel à des choses sensorielles. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, voire 25 minutes, une demi-heure comme ça, leur balancer un truc qu'ils connaissent par cœur. On tire la ficelle de la nostalgie juste au bon moment et là, bah, ça part, tu vois. Et là, c'est comme un truc de frustration et récompense. J'adore faire ça. J'aime aussi faire chier les gens.
C'est-à-dire ?
Quand je dis faire chier les gens, tu vois, il y a un morceau de DJ Detweiler qui s'appelle Harp Baffle. Et en fait, c'est un morceau au piano où il reprend la mélodie de Gypsy Woman au piano. Et au début, tu crois que c'est l'intro de Gypsy Woman. Sauf que ça continue, ça continue, ça continue. Et puis après, il commence à mal jouer. Il commence à jouer des notes dissonantes. Après, il part dans une espèce d'arpège qui n'ont rien à voir. Et ça dure 5 minutes montre en main pour revenir sur le riff de Gypsy Woman. Et si t'arrives à mixer un morceau avec ça, les gens pètent un plomb, en fait. Cette espèce de frustration que tu vas avoir pendant 5 minutes où quelqu'un est juste en train de mal jouer Gypsy Woman au piano ou d'en faire des tonnes en faisant des montées de... une espèce de truc Steve Reich, Gypsy Woman version Steve Reich. Ça dure longtemps, ça dure bien trop longtemps, en fait. Il y a le moment où tu trouves ça drôle et il y a le moment où tu trouves ça plus drôle, en fait. Si en face de toi, t'as le bon public, bien blindé et que c'est le bon moment dans la soirée et que t'arrives à mettre ce morceau, et c'est ce que j'ai fait à Barcelone récemment, au club Apollo à Barcelone. Voilà, j'ai mis ce morceau vers la fin de mon set, les gens étaient surexcités, limite les lumières étaient allumées, et derrière il y a eu un dernier morceau et c'était genre ah, ça se lâche après 5 minutes de frustration. Ah, c'est une sorte de... Est-ce que c'est comparable au sexe? Oui, certainement. évidemment. Et je pense que oui, faut le dire. C'est exactement ça. C'est exactement frustration et release.
C'était quoi comme morceau que t'as balancé?
Est-ce qu'on peut ne pas garder ça, s'il te plaît, dans le podcast?
Je chante misérablement
Scott Grooves, Mothership Reconnection, Daft Punk Remix.
Plusieurs fois, on a évoqué des représentations de la fête et du club au cinéma. On a parlé de Berlin Calling, on a parlé de... Je sais plus le premier, de quoi on parlait
Basic Instinct.
Toi-même, t'as incarné la fête au cinéma, puisque t'as joué ton propre rôle dans une scène de teuf dans le dernier Audiard, les Olympiades.
En fait, il y a eu 3 scènes de teuf. Une où on me voit pas, c'est dans un appart, et j'ai été coupé au montage. Mais on entend la zik. Une autre sur un rooftop des tours des Olympiades à Tolbiac. La principale, c'est celle dans la teuf du BDE de Tolbiac. Où je suis au platine.
Voilà. Est-ce que tu trouves que généralement le cinéma représente bien la teuf?
J'ai compris en le faisant que c'était compliqué,
ouais,
de tourner une vraie scène dans un club, parce que tu dois t'arrêter tout le temps de jouer, tu peux pas à la fois jouer de la zik et enregistrer des dialogues. C'est tout le temps des micro moments où les gens doivent être à fond et ensuite on dit couper et ils doivent répéter cette euphorie 17 fois de suite, tu vois. Donc au bout de la 17e fois, ils sont plus trop dedans, quoi. Moi, c'était un peu mon job sur le tournage du Audiard. J'étais à la fois chauffeur de salle et figurant, ce qu'on appelle un caméo. Donc j'étais à la fois là pour montrer ma gueule et aussi pour leur mettre de la musique qui allait les saucer, tu vois.
Qui allait vraiment les ambiancer.
Exactement. Et moi, j'ai pris le truc comme faire un vrai DJ. En plus, c'était en plein Covid, on n'avait pas le droit de faire des vrais DJ sets. Donc j'étais genre, je prends ma revanche, trop bien, je vais mixer, tu vois. Et c'était un peu frustrant parce qu'on me disait tout le temps, arrête-toi. Mais du coup, plutôt que de jouer tout le temps le même morceau, j'ai vraiment attaqué ça comme un DJ set et j'ai vraiment changé les morceaux à chaque fois. Puisque de toute manière, à la post-prod, on allait rajouter d'autres sons par-dessus les moments où je mixe. Et ces sons-là, Jacques Audiard m'a demandé de les produire. Et j'ai fait appel à Parawan, qui est bien meilleur producteur que moi, pour les produire sous ma supervision, on va dire. Au moment du tournage, je jouais des gros tubes, je jouais des grosses, des gros bangers, du Cardi B.
Fallait ambiancer les gens parce qu'on peut pas faire semblant de s'amuser.
Exactement, on peut pas faire semblant de s'amuser. Mais là, c'est un petit peu s'amuser sur commande quand même.
Ouais, quand même.
Et c'est un petit peu genre, waouh, le méga enchaînement que tu viens de faire un petit peu par erreur, il faut le refaire là. Ou genre, il faut en tout cas que tu crées la même excitation chez les gens.
Énergie,
tu vois,
ouais.
17 fois de suite, tu vois. Genre, tout un après-midi pour tourner une scène de club de 3 minutes, quoi. Et du coup, maintenant, je vois les scènes de film comme... Je comprends pourquoi elles sont pas toutes méga bien, tu vois. Mais je dirais que Basic Instinct, ça me va très bien.
Ça faisait le job.
Dans cette version fantasmée de... Attends, tu veux que je te dise un truc ? Des scènes de club que j'ai trouvées incroyables récemment à la télévision, c'est dans la série Pam and Tommy.
Ah oui.
Sur Pamela Anderson et Tommy.
Ouais, sur Disney Plus, ouais.
Là, il y a des scènes de club incroyables, avec en plus de l'Eurodance, pas génial. Et genre, à un moment, un remix Piano House, année 2000, un peu dégueu, un remix qui tombe en même temps une reprise de Total Eclipse of the Heart, cheesy Eurodance, qui joue à un moment clé dans le deuxième épisode. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai tout de suite appelé mes potes en disant, voilà, ça y est. J'ai téléchargé le morceau direct et j'étais genre, faut trop qu'on passe ça, faut trop qu'on joue ça et tout. J'ai appelé les gens vraiment, il était tard et tout, j'étais devant la télé et j'ai eu une épiphanie avec ce morceau. Ça veut dire que la scène est vraiment réussie.
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui relie au fond une soirée au social club, un mariage au son d'Émile et Images, une soirée de la créole? Est-ce qu'il y a un connecteur commun à toutes les fêtes, même si on va les chercher dans des cultures ou des milieux différents?
Je ne sais pas s'il y a un connecteur commun à toutes ces fêtes, mais moi, j'ai cette envie d'être le connecteur commun à toutes ces fêtes.
Ah.
Moi, j'ai envie de... probablement pas jouer de la même manière à un mariage dans un club ultra populaire et dans un club niche, underground, etc. Mais quand même que une bonne 60% de ma playlist soit commune à tous ces trucs, hein, ou à, bon, allez, 50. J'aime être le DJ caméléon, mais j'aime aussi amener ma saveur dans les endroits. Tu vois, là, par exemple, ce week-end, je suis censé jouer à Bologne, en Italie, dans une soirée qui est plutôt rap. Et j'ai envie de m'adapter un tout petit peu, mais j'ai quand même envie de ramener les gens dans mon délire. Je vais faire le cheval de Troie, tout simplement. Je vais vraiment utiliser cette technique du cheval de Troie, de les amadouer en leur jouant des trucs qui vont leur plaire, je le sais, et ensuite de les amener dans mon délire. Parce que je pense que c'est important quand même, quand t'es DJ, de pas être interchangeable.
Tu, en soirée, tu préfères les before ou les after?
Les before, putain, 100% les before. J'aime bien que la soirée termine vraiment tard, mais il y a un moment, c'est de plus en plus j'ai envie de rentrer chez moi. Tout ça parce que je consomme pas de drogue et que je bois pas d'alcool. Donc les afters ont un truc un peu limité chez moi. À vrai dire, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime la fête. J'aime pas spécialement faire la pré-fête. J'aime un bon repas et ensuite la fête. J'aime une bonne bouffe qui dure des plombes. Autour d'une bonne table avec des amis, soit qui sont liés à la fête qui va suivre, soit pas du tout. Et ensuite, une fois qu'on a eu le temps de digérer limite, tu vois, là, petite marche de digestion jusqu'au club. Tu vois, le truc parfait pour moi, c'est d'être dans le quartier, dans le 9e, de se faire une très bonne table du 9e, il y en a un max, et ça, ce sera l'objet d'un autre podcast. Et ensuite, une petite marche vers la machine du Moulin Rouge, et après, on fait la teuf à la machine. Ça, j'adore. Ça, c'est mon vendredi soir ou mon samedi soir idéal. Vraiment.
C'est quoi les ingrédients d'une fête réussie pour toi? Qu'est-ce qui compte le plus? Ça va être vraiment la qualité de la musique, le lien social, l'ambiance, le lieu?
Ouais, c'est un peu tout ça à la fois. Le lieu, c'est sûr. Il faut que j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, en fait. Avec plusieurs options qui s'offrent à moi. En même temps, je dis ça et j'ai fait des fêtes mortelles où t'es juste dans un carré tout noir avec une seule lumière et un DJ, tu vois. Et beaucoup trop de fumée, tu vois. Et où t'es complètement désorienté, où tu sais pas ce qui se passe. Mais je pense que, quelque part, même dans des clubs comme ça, comme le Corsica Studios à Londres, tu vois, où c'est vraiment très très minimal la déco et où c'est vraiment genre... la musique avant tout et le sound system que tu vas ressentir dans tout ton corps, où tu fermes les yeux et tu sais pas où t'es et t'as l'impression d'être dans la musique, tu vois. Bah, il y a quand même un fumoir où tu peux un petit peu sortir du son à un moment. Il y a quand même un petit couloir, il y a quand même des petits recoins, une deuxième salle avec un autre bar. Il y a quand même un itinéraire qu'on peut prendre, hein, une possibilité de pas être uniquement dans le son pendant toute la nuit. Je pense que ça, c'est important. Il faut qu'il y ait les copains. Il faut qu'on se tombe dans les bras à un moment. Il faut qu'on se tombe dans les bras et qu'on se regarde et qu'on se dise « c'est incroyable ce qui est en train de se passer ». Qu'on se roule une pelle, tu vois. Avec quelqu'un qu'on connaît ou avec un inconnu ou avec je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait une communion. Mais de plus en plus, moi, je sors aux endroits où je joue. Moi, je suis DJ. Donc, tous les week-ends, je suis booké à l'extérieur, quoi. À une certaine époque, il y avait des clubs dont la fonction était un petit peu d'être des repères pour les DJ pendant la semaine. Parce que t'as beau tourner, allez, du jeudi au dimanche, tu gardes ce rythme de couche-tard toute la semaine. Pour ceux qui sont musiciens, ils bossent pendant la nuit dans leur studio, etc. Tu restes une personne qui se couche tard. Donc la semaine, t'aimes bien sortir. Et il y avait un côté sympathique dans ces clubs qui étaient ouverts toute la semaine. Et tu pouvais sortir le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais sortir le mardi. Tu savais pas forcément qui jouait, mais tu savais que tu pouvais aller au Paris-Paris, que t'allais passer un bon moment et que t'allais retrouver des gens. T'avais même pas besoin de les appeler, t'allais les retrouver. C'est une expérience de bar PMU, mais c'est une expérience sympa, tu vois.
De PMU branchouille, quand même.
Ouais, PMU branchouille, bien sûr. Mais je pense qu'à une époque, il y a eu le Petit Palace, il y a eu Hôtel Bourbon. Mais même d'une certaine manière, le Chinois à Montreuil, c'est un petit peu ça. L'International, qui n'est pas du tout un club de branchouille, c'est un petit peu ça. C'est des petits clubs de quartier. Je trouve que c'est important, ces clubs-là. En général, le sound system est encore moins bien que dans les plus gros clubs, mais là, c'est sûr qu'on y va plus pour l'expérience humaine.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Ce qui peut tuer la fête, c'est des gens qui ont des mauvaises expériences avec un staff horrible, avec des gens qui se comportent mal dans le club, des gens qui respectent pas que ce soit le consentement ou juste l'espace naturel des gens et qui se comportent comme des mauvaises personnes, quoi. Ça tue la fête, c'est sûr, hein. Devoir gérer des situations comme ça, devoir foutre des gens dehors, devoir j'ai le privilège d'être un mec un peu costaud qui peut se retrouver dans une situation comme ça, la régler, puis retourner faire la fête, tu vois. Mais il y a des gens qui vont être peut-être plus fragiles physiquement ou émotionnellement et qui vont, à qui ça va gâcher la soirée intégralement et qui ne pourront plus retourner dans un mood de fête une fois qu'il leur est arrivé une mauvaise expérience. Même quand c'est des petits trucs un peu qui peuvent paraître futiles, même quand c'est juste des réflexions, ça peut gâcher la fête, ouais, c'est sûr. J'espère que le Covid aura servi de leçon aux gens et que suite à cette petite pause qu'il y a eu dans le clubbing, on va repartir sur des vibes plus saines et sur des choses plus saines. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le cas sur le papier, dans les intentions des gens. Est-ce que ça va vraiment se manifester dans la vraie vie ? Question.
Pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, sa raison d'être profonde ?
Est-ce que je peux m'auto-citer ?
Oui, t'as le droit de t'auto-citer.
Je suis né, mort et ressuscité dans le club. Si la terre arrête de tourner, tu peux me trouver dans le club. J'ai perdu ma jeunesse comme on perd son paquet de clopes dans le club. Voilà, c'est tout. Non, en fait, il y a tout un couplet. Je ne l'ai pas vraiment en tête. C'est un morceau que j'ai fait avec un Suédois qui s'appelle Inepa Klubben, qui veut dire dans le club en suédois.
Donc t'as fait deux morceaux qui s'appellent dans le club.
Absolument.
Quel morceau de TTC ?
Absolument.
Bon bah tout est dit.
Non mais tout n'est pas dit.
Non.
Mais les choses qui ne sont pas dites doivent être vécues.
Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
La question qui tue, la question impossible. Si tu devais choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la fête.
My Party de Errorsmith. Parce que il répète party my party, party my party pendant genre 5 minutes et c'est comme un mantra pour faire la teuf.
C'est marrant parce que je sais pas si tu sais, mais c'est en partie le générique de ce podcast.
Ah merde!
Burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.